Le titre de la prédication d'aujourd'hui, pour vous qui prenez des notes, c'est le suivant. Ne manquons pas la cible. Ne manquons pas la cible. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a lu ensemble, on a médité un petit peu sur le premier chapitre de l'Apocalypse. Et on s'était un peu donné comme défi pour la semaine de s'arrêter un moment, peut-être d'aller prendre un café ou que sais-je, de se prendre un temps de relire ce premier chapitre de l'Apocalypse et d'être émerveillé tout à nouveau par la gloire de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait vu ce portrait absolument glorieux de Christ. On avait vu ces 16 caractéristiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a la voix comme le tonnerre, il avait les yeux comme le feu, il avait les pieds comme du bronze et j'en passe. Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, est glorieux. Et c'est vraiment sur ce socle-là, sur ce premier chapitre de l'Apocalypse que Jésus adresse maintenant 7 notes à chacune des 7 églises de la province romaine d'Asie. Et on va étudier ce matin la première d'entre elles, cette première note que notre Seigneur adresse à l'église d'Éphèse. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite déjà à l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 2. On ne va pas lire le texte tout de suite, mais vous pouvez déjà prendre le temps de l'ouvrir. Si vous n'avez jamais ouvert une Bible, c'est le dernier livre de la Bible, donc vous pouvez commencer par la fin. Vous allez arriver à la dernière page en Apocalypse 22, et puis vous remontez jusqu'à Apocalypse 2, et on lira à partir du verset 1. Si vous n'avez pas de Bible, comme André l'a dit, il y en a là au fond, vous pouvez sans autre aller en chercher une. J'aimerais, en introduction, vous parler d'un couple. Bon, c'est un couple fictif, donc vraiment ne vous sentez pas visé, c'est vraiment le pur fruit de mon imagination. Et je pense que d'une certaine manière, on se retrouve pas du tout dans ce couple, ou en tout cas, ou peut-être on se retrouve partiellement, mais on se retrouve tous plus ou moins et plus ou moins pas dans ce couple. C'est Julien et Samantha. Est-ce que quelqu'un s'appelle Julien ? Non ? Est-ce que quelqu'un s'appelle Samantha ? Non, c'est bon, donc on peut partir sur ces deux prénoms-là, sinon il faut que je change les prénoms pour pas que vous vous sentiez visé. Hein. Julien et Samantha, donc c'est un couple, ils sont mariés déjà depuis quelques années, et avec le temps, c'est devenu un petit peu un couple pragmatique. Voilà, leurs premières années de mariage, elles ont été marquées par des sentiments forts. Voilà, ils s'aimaient tendrement, ils ont vécu de bons moments vraiment ensemble. Et puis, avec le temps, les émotions, les sentiments sont estompés. La flamme, on pourrait dire, s'est éteinte. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est devenu un couple pragmatique. Ils se rendent compte que c'est mieux qu'ils restent ensemble, bien sûr, parce que voilà, ils peuvent se soutenir mutuellement. Peut-être que c'est utile pour l'un et pour l'autre. Et du coup, ils continuent leur vie de cette manière-là. Et c'est triste, hein. Ce serait triste, un couple comme ça. Alors bien sûr, on vit tous des hauts et des bas dans nos vies de couple, mais vraiment un couple dans lequel il n'y aurait plus du tout de sentiments, plus du tout d'émotions, c'est quelque chose de triste. C'est quelque chose qui peut arriver, hein, malheureusement, bien sûr. On n'espère pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais c'est quelque chose de triste. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que c'est un petit peu ce qui est arrivé à cette église d'Éphèse. Une église qui était bien partie, une église qui était partie, voilà, avec un amour fort, un amour tendre pour le Seigneur. Et on va voir qu'après quelques décennies d'existence, ce que notre Seigneur dit, reproche à cette Église, il va lui dire dans le texte qu'on va lire, « Tu as abandonné ton premier amour. » Quelques mots avant de lire le texte sur l'Église d'Éphèse. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette Église d'Éphèse. C'est probablement l'Église par rapport à laquelle on a le plus d'informations dans le Nouveau Testament. C'est l'église la mieux documentée. Si vous lisez déjà dans le livre des Actes, chapitre 18, 19, 20, on a l'histoire de l'implantation de cette église. C'est sans doute, peut-être avec Corinthe, l'église sur laquelle on a le plus d'informations sur son implantation. Ça a été assez épique, hein, donc c'est un homme qui s'appelle Apollos, qui a, on pourrait dire, posé les premiers jalons. Il est venu, il a commencé de parler de Jésus-Christ. Mais voilà, il y avait quelques imprécisions, quelques erreurs dans ce qu'il enseignait. C'était pas volontaire, c'est lui-même probablement savait pas trop, était pas tout à fait au clair. Et du coup, ensuite, dans un deuxième temps, il y a l'apôtre Paul qui est venu, et c'est vraiment lui qui a posé le fondement stable, le fondement solide de cette église. Il est resté assez longtemps, en tout cas 2 ans, dans cette église. Il a prêché Christ dans cette église. L'église a vraiment démarré. Il s'est passé des choses assez spectaculaires. Il y a, par exemple, des magiciens qui sont venus et qui ont brûlé tous leurs documents de magie, leurs documents de référence sur la magie, pour des milliers de francs, enfin, en correspondance de l'époque, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers de francs de l'époque. Ils ont brûlé ça comme signe qu'ils ne voulaient plus se référer à la magie, mais qu'ils voulaient appartenir à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que dans cette ville, la naissance de l'Église a été tellement spectaculaire que ça a posé des problèmes économiques dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des orfèvres qui créaient des petites statuettes ou des petites répliques du temple d'Éphèse miniature. Et en fait, ces gens-là, du coup, n'avaient plus de boulot. Parce qu'il y avait tellement de chrétiens que les chrétiens n'achetaient plus leurs produits. Et du coup, il y a eu une espèce de... C'est pas le syndicat des orfèvres d'Éphèse qui a commencé à protester, et ça a fait des manifestations et des trucs incroyables, quoi. Enfin, tout ça pour vous donner un peu le sentiment de qu'est-ce qui se passait à Éphèse au moment de son implantation. Quelques années plus tard, c'est l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Éphésiens. Alors, en tout cas, cette épître s'adressait à l'église d'Éphèse, peut-être qu'elle s'adressait aussi aux autres églises de la région romaine d'Asie, mais en tout cas à l'église d'Éphèse. Et puis maintenant, on est à peu près 30 ans plus tard, en tout cas quelques décennies plus tard, et c'est Jean, enfin c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est par la plume de Jean que le Seigneur Jésus-Christ s'adresse encore une fois à son église. Donc on a une église qui a démarré fort, et puis après quelques décennies, voilà ce que le Seigneur dit à cette église. Donc je lis le texte. Dans Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Écrit, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui s'adresse à Jean et qui lui dit, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je l'ai dit, hein, on va étudier là dans les 7, pas les 7 prochains dimanches, parce que ça va être intercalé avec d'autres prédications, mais dans les prochains temps, on va étudier ces 7 lettres. Et avant de m'attaquer à celle-ci, j'aimerais juste dire un petit mot par rapport à cet ensemble de 7 lettres. Parce que ces 7 lettres, elles se ressemblent un petit peu les unes aux autres. J'ai fait l'exercice il y a quelques mois pour le groupe de jeunes, de noter ces 7 lettres. J'ai noté ces 7 lettres en parallèle, vous voyez, donc là sur ce tableau vous voyez sûrement rien de votre place, mais c'est pas grave, je vous le décris. Il y a 7 colonnes et aussi un certain nombre de lignes, parce qu'on se rend compte que les choses se ressemblent beaucoup, et j'aimerais juste, enfin, je pense que c'est important qu'on comprenne ça, parce que ça va influencer notre lecture des 7 lettres. Dans ces 7 lettres, Jésus commence par un ordre d'écriture à son apôtre Jean. Il lui dit « Écris à l'ange de l'église, ici de l'église d'Éphèse, ensuite de Smyrne, de Pergame, et j'en passe. » Et ensuite, Jésus se présente avec certaines caractéristiques. On a quelques mots sur l'auteur, et ce qui est vraiment fort, c'est que Jésus se présente à chaque église d'une manière un peu différente. parce qu'à chaque église, ils se présentent d'une manière qui correspond au problème de cette église en question. Quand l'église vit la persécution, Jésus se présente comme, voilà, comme celui qui protège, comme celui qui les aime. Quand l'église vit des problèmes, enfin de faux enseignements, Jésus est celui qui va, enfin, il se présente comme celui qui va remettre de l'ordre, et j'en passe. Ici, il se présente comme celui qui tient les sept étoiles, comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers. À chaque fois, cette présentation de l'auteur, elle trouve sa source, en fait, dans le chapitre 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu, enfin pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait vu que Jésus, au chapitre 1, s'était déjà présenté comme celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers. On revient sur la structure. Hein. Ensuite, à chaque fois, Jésus dit « Je connais tes œuvres, enfin je te connais, je connais ce qui se passe. » Ici, il leur dit « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Jésus connaît ses églises, il les connaît en profondeur. Et c'est pour ça qu'il peut s'adresser à elles. Et ensuite, on a le corps de la lettre. Alors là, le corps de la lettre est assez différent d'une église à l'autre, bien sûr. Il adresse à chaque fois des problèmes personnels à chaque église. Et puis, à la fin de chaque lettre aussi, on a ces mots que « celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Et puis, on a un mot de bénédiction qui est destiné aux vainqueurs, à ceux qui ne vont pas se laisser troubler par les problèmes qui existent. Un mot de bénédiction aux vainqueurs. Donc voilà, ça c'est la structure de ces sept lettres. Donc gardez ça en tête, parce que ça va revenir tout au long de ces sept prédications qu'on va avoir. Et si vous désirez ce tableau, je peux vous le donner, j'en ai imprimé quelques-uns, donc je vous le donnerai volontiers. On attaque maintenant cette lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est quoi ces sept étoiles, ces sept chandeliers d'or en fait? Jésus nous l'avait révélé, on l'a vu la semaine dernière. Quand Jésus s'est présenté, il a intentionnellement dit à son apôtre, je relis hein, chapitre 1, verset 20, « Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Donc, les sept anges des sept églises, c'est probablement en fait les sept messagers des sept églises, c'est très probablement les sept responsables, les sept leaders de ces sept églises. Et Jésus s'adresse à ce responsable de l'église d'Éphèse et lui dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et Jésus se présente comme celui qui tient les leaders de ces églises dans sa main droite. C'est celui qui règne sur son église. Mais c'est aussi celui qui est au milieu de son église. Vous voyez, c'est celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est celui qui est le seigneur de son église, le roi de son église, celui qui règne sur son église et qui est au milieu d'elle. Jésus se présente comme ça à l'église d'Éphèse. Et puis ensuite, il s'adresse à cette église. Il y a quatre points, en quelque sorte, dans cette lettre, enfin le corps de la lettre que Jésus adresse à cette église. Premièrement, un point positif. Et on va quand même voir ce point positif parce que ce serait dommage de trop vite sauter sur le point négatif que Jésus adresse à cette église. Cette église, elle a plein de belles choses en elle-même, quand même. Et il faut le reconnaître. Deuxièmement, on a quand même le point négatif qui va venir. Troisièmement, Jésus leur propose un changement. Voilà comment vous pouvez revenir à moi. Et puis quatrièmement, Jésus les prévient d'un jugement. Voilà ce qui va se passer. Il leur dit, voilà ce qui va se passer si vous ne changez pas d'attitude maintenant. Premièrement, le point positif. Quand même, église d'Éphèse, on a vu son historique, une église qui a bien démarré, une église quand même probablement assez importante, une église probablement qui est à la source en fait des six autres églises d'Asie. Hein. C'est à partir de là que l'évangile est arrivé dans cette région-là. Une église stable. Vous avez remarqué, hein, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres sans lettre et tu les as trouvés menteurs. Une église solide. Hein. Elle ne se laisse pas influencer par de faux enseignements. Elle avait vécu un petit peu avec Apollos, un enseignement un peu erroné, mais maintenant elle est stable. On pourrait dire que c'est une église qui est doctrinalement bien fondée. n'y a pas de faux enseignants. On va voir par la suite dans d'autres églises, il y a vraiment de faux enseignements qui circulent. Mais ici, non. On voit aussi qu'elle ne se laisse pas influencer par les œuvres des Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes. On ne sait pas exactement ce que c'était, cette doctrine des Nicolaïtes, mais on va la revoir par rapport à l'église de Pergame dans quelques dimanches. Donc je ne vais pas trop en parler ici, mais en tout cas, une église solide, une église stable. Une église aussi persévérante. Vous avez remarqué, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Une église qui arrive à continuer. Hein, et puis, bien sûr, au premier siècle, vous pouvez imaginer, il y avait de la persécution. Mais c'est une église qui a souffert à cause du nom de Jésus et qui a continué à la persévérer. C'est une église résistante. C'est une église qui a une bonne doctrine, probablement une église qui rayonne aussi, qui parle d'elle, autour d'elle. Comme je l'ai dit, c'est probablement depuis ce point de démarrage que les autres églises d'Asie ont été implantées. Et puis c'est là qu'on passe au point B, le point négatif. C'est la douche froide, hein. Ça fait froid dans le dos. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dur, hein. Cette église qui avait suscité même des problèmes économiques dans la ville d'Éphèse. Cette église où les magiciens même étaient venus brûler leurs livres. Cette église incroyable, cette église belle. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une discussion parmi les spécialistes, les théologiens, par rapport à qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que vraiment ils avaient abandonné, sur quoi Jésus met l'accent ici. Et il y a ces deux manières de voir. Certains disent qu'en fait c'était l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient une bonne doctrine, mais l'amour de Dieu était passé dans cette église. Et certains disent que non, en fait, s'ils avaient une bonne doctrine, ils devaient quand même aimer Dieu. Alors en fait, c'est probablement plutôt l'amour du prochain qui était plus présent dans cette église. Franchement, je ne sais pas trop comment trancher entre ces deux points, mais je crois que très probablement, les deux points peuvent être vus ensemble. Vous connaissez très probablement ces versets quand des pharisiens essayent de piéger Jésus et qui lui demandent « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc je ne crois pas qu'on a besoin de dissocier les deux, on n'a pas besoin de trancher. Et en fait, ces deux commandements s'influencent l'un l'autre. Si on aime Dieu sincèrement, si on aime Dieu vraiment, on devrait aimer notre prochain sincèrement, aimer notre prochain vraiment. De la même manière, si on n'aime pas Dieu, on n'arrivera pas à aimer notre prochain suffisamment. Et du coup, très probablement que les deux étaient vrais pour l'église d'Éphèse. Ils avaient une lacune, une défaillance d'amour. Ils ne vivaient pas l'amour. Au départ, donc, il y avait cet amour fort. Et puis, avec quelques décennies de temps, l'amour s'est perdu. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Parce que Dieu est plein de grâce et Dieu veut, il espère que son Église revienne à lui. Et du coup, il leur demande de changer. Il leur dit quoi faire pour changer. Hein? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. Ce que Jésus leur demande, c'est de faire un retour en arrière. C'est de regarder dans le rétroviseur, de regarder derrière eux et de se dire mais oui, voilà d'où je suis tombé. Voilà ce comment nous étions il y a 30 ans quand on a démarré. C'est que les gens de l'église d'Éphèse se voient les uns les autres et se disent « Mais oui, mais on a oublié. Voilà comment on vivait dans ces premières années. Repens-toi, souviens-toi, pratique tes premières œuvres. » Ici, en fait, on a une logique de réveil. Jésus leur dit « Mais hé, les gars, revenez à moi, réveillez-vous, vous êtes... » endormi, vous êtes peut-être sclérosé, vous avez abandonné ce premier amour. Revenez à moi. Jésus leur demande de se réveiller. Il leur donne, enfin, il leur ordonne une logique de réveil. Et puis le dernier point, jugement. Et là, de nouveau, ça fait peur, hein. C'est pas du blabla, c'est pas juste que c'est bien de s'aimer les uns les autres, d'aimer Dieu. C'est pas juste que c'est quelque chose qui serait politiquement correct ou bon pour eux ou que sais-je. Non, c'est beaucoup plus important que ça, hein. Il leur dit, sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'église d'Éphèse risque de perdre son statut d'église. Il risque de ne plus être parmi ces sept chandeliers au milieu desquels le Seigneur règne. Jésus rigole pas avec ça, hein. Mais en même temps, Dieu est un Dieu de grâce et il les prévient. Il leur dit avant qu'il soit trop tard, il leur dit à moins que tu changes d'attitude, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Revenez à moi. Voilà ce que leur dit le Seigneur. Revenez à moi. Encore un mot sur la bénédiction finale de cet épître. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie, on en a parlé d'ailleurs il y a 2 semaines, lors du dernier culte de l'année 2017, on avait étudié ensemble le chapitre 22 de l'Apocalypse, et on avait déjà vu cet arbre de vie. Cet arbre, en fait, on le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Cet arbre de vie, on le voit déjà dans le jardin d'Éden, en Genèse 3. C'est cet arbre de vie qui donnait la vie éternelle à Adam et Ève, et c'est cet arbre de vie... C'est par rapport à cet arbre de vie que Adam et Ève n'y ont plus eu accès suite à l'entrée du péché, à l'entrée du mal dans le monde. Et puis on voit que cet arbre de vie est retrouvé justement dans Apocalypse 22. Cet arbre de vie, c'est en fait la vie éternelle. C'est cet arbre qui donne la vie éternelle. Et là aussi, ce que le Seigneur propose, ce que le Seigneur promet à ceux qui seront des vainqueurs, il donnera à manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça doit nous encourager profondément de dire, mais si nous sommes vainqueurs, si nous avons cet amour, ce qui nous est promis, ce n'est pas une petite promesse, c'est d'entrer avec lui dans la vie éternelle. Tu as abandonné ton premier amour. Moi, ça m'a rappelé un épisode, quelque chose qui m'a marqué il y a quelques années déjà. Peut-être certains connaissaient un monsieur qui s'appelle Raymond Chollet. C'est un monsieur qui est dans une église sœur de la nôtre, qui se trouve dans la campagne de Genève. Et moi, j'allais dans cette église à cette époque-là. Et cet homme, Raymond Chollet, il m'avait vraiment profondément marqué. Un jour, on discutait ensemble. C'est un homme qui est agriculteur. Et puis, c'est aussi un homme qui a pas mal de mal à s'exprimer. On ne comprend pas facilement ce qu'il essaye de dire. Et pourtant, il m'a souvent bluffé par sa sagesse et par sa compréhension de la vie chrétienne, en fait. Et un jour, on parlait de qu'est-ce qui devrait caractériser un chrétien. Et alors, bien sûr, moi, je donnais quelques idées, quelques points doctrinaux qui devraient caractériser les chrétiens. Et lui, avec ses gros problèmes d'élocution, il m'a dit, non, en fait, ce qui devrait caractériser les chrétiens, c'est l'amour. Il me l'a dit, il avait vraiment les larmes aux yeux quand il m'a dit ça. Ça m'a vraiment marqué ce jour-là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, il a raison. Tout le reste, c'est du blabla. Ce qui devrait caractériser le chrétien, c'est l'amour. L'apôtre Paul le dit, c'est écrit même sur notre mur. Hein. Il le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Trois seules choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Samantha et Julien, donc c'était un couple pragmatique. Ils restaient ensemble parce que voilà, c'était bien, c'était utile. Ils pouvaient se soutenir financièrement, ils pouvaient peut-être se rendre des services mutuels. Peut-être que c'était Julien qui passait l'aspirateur et Samantha qui faisait la vaisselle. Mais l'amour... était plus là. Et c'est ce qui est arrivé à cette église d'Éphèse. Une église qui était bien partie, une église vivante et une église qui a abandonné son premier amour, une église qui était théologiquement solide, une église qui était vivante, enfin, qui était, on pourrait dire, visiblement vivante, mais une église qui avait abandonné son premier amour. Et je crois que le Seigneur adresse ces mots à l'église d'Éphèse, mais je crois que ces mots, ils sont tellement percutants pour nous encore aujourd'hui. Ces mots, ils nous font réfléchir. Est-ce que nous avons abandonné notre premier amour? Est-ce que j'ai abandonné mon premier amour? Bien sûr, ça nous fait réfléchir en tant qu'église et en tant que personne. Est-ce qu'on a abandonné notre premier amour? Pour moi, ça a été un petit peu quand même une claque, hein, cette semaine, de me dire, mais c'est vrai. Est-ce que parfois, je ne perds pas l'essentiel? Est-ce que parfois, je manque pas la cible? Est-ce que parfois, je ne me perds pas dans d'autres choses et j'oublie mon premier amour? Je pense que, voilà, si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous l'avez sans doute vécu, hein, un jour, on a rencontré Jésus-Christ, c'était fort. Et puis peut-être après quelques années, on oublie ça, on se perd dans des choses secondaires. Et je crois que ce texte, bien sûr, il s'adresse à l'église d'Éphèse, mais comme toutes les épîtres du Nouveau Testament, elle s'adresse à une église en particulier. Mais en les lisant, on se sent nous aussi concernés. Et de la même manière, on doit nous aussi se sentir concernés. Et notre Seigneur nous dit, au même titre qu'il dit à l'église d'Éphèse, il nous dit au travers de ce texte, réveille-toi, reviens en arrière, souviens-toi d'où tu es tombé, pratique tes premières œuvres. Parce que le but de cette épître, je crois que c'est vraiment de nous faire brûler. On doit se souvenir du jour même de notre conversion, se souvenir de ce jour où on a compris le message de l'Évangile, ce jour où on a réalisé ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous savez ce qu'il a fait pour nous, Jésus-Christ? On était pécheurs, on était loin de Dieu, on était condamné à la colère de Dieu, à être séparé de Dieu pour l'éternité. On était condamné à mort. Et Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, lui-même Dieu. Il a été envoyé sur terre et il est mort injustement. Lui qui était parfait, lui qui avait mené la vie qu'on aurait dû mener, il est mort de la mort dont on aurait dû mourir. Il a pris sur lui notre péché pour que nous puissions être pardonnés. Et aujourd'hui, on peut être sauvés par ce moyen-là. Tout simplement en nous confiant en lui, en acceptant ce message de l'Évangile, on peut être nous aussi sauvés pour l'éternité et on peut avoir accès à cette promesse des vainqueurs. Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà ce qui nous est proposé à nous qui aimons Dieu de tout notre cœur, à nous qui aimons nos prochains comme nous-mêmes. J'ai lu un article il y a quelques temps, sur un blog qui s'appelle toutpoursagloire.com, un article sur le réveil, justement. C'était en fait une reprise d'un article en anglais, et donc c'était un peu un résumé. L'article en anglais était encore plus long, mais il y avait déjà pas mal d'informations. C'était un type qui a étudié les réveils. Il a étudié les réveils dans l'Ancien Testament, donc ces moments où vraiment le peuple de Dieu revient à Dieu, c'est ça les réveils, hein. Il a étudié dans l'Ancien Testament, il a étudié dans le Nouveau Testament, il a étudié dans l'histoire de l'Église. Et il s'est posé cette question, qu'est-ce qui caractérise ces réveils? Parce que bien sûr, chaque réveil est différent, ça se passe dans des époques différentes, dans des cultures différentes, donc les modalités sont différentes, mais il s'est posé la question, est-ce qu'il y a des choses qui restent dans ces réveils? Et il a noté deux choses qui sont toujours, toujours présentes. La première chose, c'est un retour à la Bible. Les gens, à l'époque des réveils, reviennent à la Bible. Ils ont soif de la Bible, ils ont envie de la lire, ils ont du plaisir parce que c'est le livre que Dieu leur adresse, c'est la lettre que Dieu leur adresse. Et comme ils aiment Dieu, ils ont envie de lire sa parole. Et la deuxième chose, c'est un désir fort de repentance. Au moment des réveils, les gens se rendent compte qu'ils sont pécheurs. Ils se rendent compte à quel point ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils se rendent compte que Dieu seul peut les sauver et les aider à progresser sur le chemin de la sanctification. Voilà ce qu'on veut vivre, nous aussi, en tant qu'Église Action Publique de la Servette, en tant qu'Église au sens large de Genève. On veut vivre ça, on veut être réveillé, on veut brûler pour Jésus-Christ, on veut revenir à la Bible et on veut avoir cette conscience de notre état de péché, cette conscience qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On doit apprendre à aimer Dieu tout à nouveau. On doit apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voilà ce qu'on veut vivre cette année 2018 ensemble. Et tout ça, vous vous souvenez, ça repose sur cette vision glorieuse de Jésus qu'on a vue au chapitre 1. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mérite qu'on l'aime de cet amour-là. Ce que je vous propose, comme pour terminer ce temps de prédication, j'ai pas prévu une application précise, concrète à faire cette semaine, comme j'aime souvent le faire. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, parce que je crois que on doit avant tout vivre ça intérieurement. On doit demander au Seigneur, chacun pour soi, de nous réveiller, de nous aider, de brûler de cet amour fort, de cet amour ardent pour lui, tout à nouveau. Alors, ce que je vous propose, c'est, on va prendre maintenant 2 minutes de silence, chacun pour soi. Gardez votre Bible ouverte devant vous. Peut-être relisez cette lettre, cette note que notre Seigneur Jésus-Christ adresse à l'église d'Éphèse. Et demandons chacun pour nous fermement à notre Seigneur de nous aider à l'aimer d'un amour vrai, d'un amour fort, à ne pas abandonner notre premier amour, mais à revenir à lui, à nous souvenir d'où nous sommes tombés et à revenir à nos premières œuvres. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je vais me taire. Et là, vous vous dites, enfin. Je me tais 2 minutes et puis je terminerai par une prière. Voilà, je vais maintenant prier. Je vous invite tous à fermer vos yeux. Et si certains le désirent, un peu en signe d'engagement pour le fait qu'on désire revenir à Dieu, revenir à Jésus-Christ, brûler tout à nouveau de cet amour ardent, pendant la prière, tous ceux qui le désirent, je vous invite à vous lever et on va prier cette prière d'engagement ensemble. Donc ceux qui veulent se lever, faites-le et je vais prier. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que si souvent, je m'en rends compte que j'ai abandonné mon premier amour. Je te demande pardon parce que si souvent, on pourrait dire, en tant qu'Église, on a abandonné notre premier amour. Et Seigneur, je veux te demander, pour moi personnellement, pour tous mes frères et sœurs qui sont là, et pour notre Église, aide-nous à nous souvenir d'où nous sommes tombés. Aide-nous à revenir à toi, aide-nous à brûler d'un amour ardent, aide-nous à pratiquer nos premières œuvres. Seigneur, tu es ce roi glorieux qu'on a vu au chapitre 1. Tu es ce Dieu plein de grâce qui nous aime. Seigneur, aide-nous à vivre cet amour ardent pour toi. Aide-nous à vivre cet amour ardent les uns pour les autres. Aide-nous, en tant que chrétiens, à être imprégnés par l'amour. Seigneur, change nos cœurs, change mon cœur. Et permets-nous de vivre ça en 2018. Permets-nous de vivre ça en 2018 avec les yeux rivés sur le but. Ce but que tu nous promets au vainqueur. Je donnerai l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Seigneur, je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.